15h, 16h,
son rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé et bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Pendant une heure, avec le docteur Jimmy Mohamed, notre médecin européen, nous tentons de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. Et justement, comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on a décidé de vous prouver que le ridicule ne tue pas. Et bien au contraire, il peut nous aider à devenir plus fort, plus performant au quotidien. Pour en parler, Annabelle Robert sera notre invitée. Elle est coach en communication et spécialiste de la prise de parole en public. Elle va nous donner tous ses meilleurs conseils et même nous apprendre les rudiments d'un truc très étonnant, le yoga du rire, une technique très utilisée en Inde et qui fait tout simplement du bien. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, nous allons faire un point sur un examen que vous serez peut-être tous un jour amenés à subir, le fond d'œil. Savez-vous comment cela se déroule précisément? À quoi cela sert-il? Nous ferons le point. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue. Aujourd'hui, elle nous décryptera un phénomène, une tendance qui peut surprendre les plans dodo.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 39-21 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on écoute la première, c'est celle de Patricia.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je vous appelle parce que je m'interrogeais quant à mon bébé. Je voulais savoir comment lui nettoyer les oreilles. J'ai entendu dire que l'utilisation de coton-tige était à éviter. Alors, est-ce que c'est vrai? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous proposez comme alternative? Je vous remercie, passez une bonne journée, au revoir.
Alors Jimmy, on va répondre de façon précise à la question de Patricia. D'abord, chez un bébé, est-ce qu'on oublie vraiment ou pas les cotons-tiges?
Oui, il est inutile de vouloir nettoyer les oreilles des enfants, car contrairement à celles des adultes ou aux vôtres, Mélanie, les oreilles des bébés sont propres.
Ça commence bien.
Donc ce n'est pas sale les oreilles d'un bébé, c'est toujours tout mignon. Et donc, si jamais vous voulez absolument nettoyer avec un coton-tige, vous risquez simplement de pousser la cire au bout
de l'enfoncer,
du conduit, ouais. Et donc conduire à la formation d'un bouchon qui fait que l'enfant entendra un petit peu moins. Au pire, vous pouvez lui faire mal et donc perforer parfois le tympan, ou l'irriter simplement. Et donc, on évite de le faire. Et si vraiment on est absolument maniaque du lavage d'oreilles, on peut acheter des cotons-tiges spéciaux pour bébé avec un embout qui est beaucoup plus large,
plus épais,
qui permet d'éviter de l'enfoncer, ou éventuellement avec une petite compresse qui est humidifiée, ça suffit largement.
D'accord. Moi, on m'avait dit que quand les bébés étaient petits, en tout cas, il y avait un moment à privilégier si on voulait absolument nettoyer les oreilles avec, par exemple, cette compresse roulée. C'était plutôt après le bain.
Oui, parce que la chaleur va permettre au cérumen d'être un peu plus humide,
liquide,
dilaté, liquide, et donc de s'évacuer plus facilement. On ne le fait pas tous les jours, une ou deux fois par semaine, ça suffit largement. Et puis parfois, simplement mettre un peu le jet d'eau chaude dans l'oreille suffit largement à nettoyer les oreilles. Donc au moment du bain, avec un bébé qui est au calme, et c'est vrai que souvent, ils aiment bien qu'on leur titille les oreilles parce qu'ils sont un peu détendus.
Ouais,
donc voilà,
ils bougent plus,
c'est un moment
bien, c'est comme si on leur gratouillait le dos comme
exactement,
un maman ours.
Ça fait du bien.
Alors d'ailleurs, il faut peut-être aussi préciser à nos auditeurs que même si on voit un peu de cérumen dans l'oreille d'un bébé, finalement, le cérumen, c'est bien, c'est une protection, c'est pas quelque chose qu'il faut absolument traquer. Hein.
Exactement, on s'en fiche du cérumen. D'ailleurs, ça a une triple fonction. La première, c'est la fonction de nettoyage. Ça permet au squame de la peau d'être emprisonné et d'éviter de s'accumuler. C'est un rôle de lubrification qui permet d'éviter d'avoir le conduit auditif qui soit irrité. Et puis, ça a une fonction de protection vis-à-vis des corps étrangers, notamment de la poussière. Donc,
comme
si le cérumen.
Filtre, en fait, hein,
exactement, c'est,
ça. C'est
comme les poils du nez ou les crottes de nez, ça sert à quelque chose, même si c'est pas très
non plus, mais
et certains enfants vont produire plus de cérumen, mais c'est pas une pathologie, c'est pas la peine d'aller voir le médecin, vous lavez simplement de temps en temps et vous les laissez tranquilles et tout se passera très bien.
Merci beaucoup Jimmy, on va passer à la deuxième question d'auditeur, cette fois c'est une question de Vincent à Montpellier.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed, je vous appelle parce que j'ai une petite question qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je sais qu'on doit jamais mélanger antibiotiques et alcool, généralement ça fait pas bon ménage. Et je voulais tout simplement savoir pourquoi. Voilà, merci.
Alors Jimmy, c'est une question qui est déjà revenue, je crois, au moins à deux reprises dans cette émission. Alcool et antibiotiques, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Alors d'abord, on va rappeler évidemment que l'alcool, on peut en consommer, mais toujours avec modération. On rappelle le slogan, c'est 2 verres maximum par jour et pas tous les jours. Docteur Jimmy Mohamed, on parle donc de consommer de l'alcool quand on est sous traitement antibiotique. Bon déjà, quand on est sous antibiotiques, c'est qu'on est peut-être un petit peu malade. Donc si on en a vraiment envie... est-ce qu'on peut prendre un petit verre?
Je suis étonné cette question. Moi, j'ai envie de leur dire, boire ou guérir, il faut choisir. Et donc, quand on est malade, je suis toujours étonné qu'on me demande, est-ce que je pourrais pas boire un verre ou deux, comme si c'était nécessaire. On dit, voilà, un verre par jour et pas tous les jours. La Société américaine d'oncologie recommande désormais une abstinence totale pour éviter la prévention, enfin pour la prévention de certaines maladies. Donc non, même si dans la réalité, ça dépend de l'antibiotique. Il y a certains antibiotiques qu'il faut éviter avec l'alcool.
Alors, on entend parfois que si on boit en prenant des antibiotiques, ça va annuler l'effet du médicament ou même aggraver les effets secondaires qu'il peut provoquer. Est-ce que ça, c'est vrai
non,
ou pas ?
Non, pas vraiment. Non. En fait, c'est vrai que c'est ce qu'on pense. Hein. Soit effet secondaire, soit annulation de l'effet de l'antibiotique. En revanche, l'alcool, lorsqu'on boit, il va être dégradé en deux molécules. Une première molécule qu'on appelle l'éthanol et une deuxième molécule qui est l'acide acétique. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous prenez un antibiotique, eh bien, l'enzyme qui est censée convertir l'éthanol, qui est toxique et qui est responsable des effets secondaires, eh bien, va être dégradée et donc vous ne pourrez pas transformer l'éthanol en acide acétique et par conséquent, vous allez avoir une accumulation d'éthanol qui va augmenter les effets secondaires de l'alcool et donc vous allez avoir la gueule de bois pendant beaucoup plus longtemps et des effets secondaires liés à l'alcool, liés à la prise antibiotique, beaucoup plus importants, raison pour laquelle il faut éviter de les prendre avec certains antibiotiques.
D'accord, alors justement, certains rapidement, lesquels, bon, même si alors, c'est un peu compliqué, les
certains,
non-antibiotiques
oui,
mais...
À l'hôpital, la famille des céphalosporines. Et en ville, il y a un antibiotique que souvent les dentistes donnent, qu'on appelle le métronidazole. C'est responsable d'un effet antabuse, c'est-à-dire que l'éthanol qui va s'accumuler va entraîner une vasodilatation responsable de la tachycardie, d'une baisse de tension, de maux de tête, de vertige. Et ça survient dans les 10 minutes jusqu'à 1 heure après la prise d'alcool avec l'antibiotique. Donc attention avec cette famille.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Vincent qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 3921, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invitée, c'est Annabelle Roberts, elle est coach en communication et spécialiste de la prise de parole en public. Et avec elle, nous allons parler du ridicule qui ne tue pas et que l'on devrait même peut-être cultiver pour être mieux dans ses baskets. En parlant de ridicule, justement, avec elle, on va apprendre les rudiments du yoga du rire. Jimmy est très impatient, hein, ça va vous plaire, ça va lui plaire, j'en suis certaine. En attendant, restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invitée pour le dossier du jour. C'est vous Annabelle Roberts, bonjour.
Bonjour.
Alors Annabelle, vous êtes spécialiste de la prise de parole en public et autrice de La théorie de la veste aux éditions Flammarion. Alors on vous a invité plusieurs fois sur ce plateau, ceux qui écoutent l'émission régulièrement le savent. On vous a invité même pendant le confinement, quand on était nous-mêmes en radio-télétravail. Et donc on avait tenté à ce moment-là une séance de yoga du rire à distance. Alors, ça a été un peu compliqué, hein, faut l'avouer. Certains ont aimé, nous on a eu des difficultés à rentrer dedans. Je parle pas de vous qui connaissez ça par cœur, mais Jimmy et moi à distance, hein, c'était un peu compliqué, Jimmy.
C'est un peu poussif.
Je vous ai pas senti participer beaucoup, donc je me suis dit, on va recommencer. Enfin, moi, je voulais vous le dire aujourd'hui, hein, mais mon fou rire après vous avoir quitté en ligne a duré au moins 5 minutes. J'arrivais plus à me calmer en me disant, mais qu'est-ce qu'on vient de faire ? On a été totalement ridicule. Alors, comme on a été totalement ridicule, je me suis dit, on va recommencer. Hein. Mais justement, avant de parler du yoga du rire, on va parler de l'auto-embarras. Qu'est-ce que c'est finalement ce concept ? Là, je sais que vous dites que c'est une arme finalement de développement personnel, je crois qu'on peut dire ça. Vous l'utilisez quotidiennement, que ce soit la vie personnelle, la vie familiale, ça fait partie de votre quotidien.
Toute seule, en famille, en entreprise, entre copines. Donc en fait, c'est Eleanor Roosevelt qui a dit que personne ne peut vous sentir inférieur tant que vous ne donnez pas votre permission. Et donc, en fait, si vous n'avez plus peur du ridicule, vous enlevez cette permission de tout le monde. Je veux dire, le ridicule ne tue pas, c'est un peu comme un vaccin, en quelque sorte. Hein. Il faut vous picouser à ça pour que le jour où ça vous arrive, ça ne vous fait pas mal.
Jimmy, vous qui êtes souvent ridicule.
Oui, c'est vrai. Mais du coup, si ça ne nous fait pas de mal, est-ce que ça peut nous faire du bien ? Est-ce qu'on peut progresser avec le ridicule ?
Bien sûr, parce qu'on a peur d'oser, on a peur de demander une augmentation, on a peur de demander à la copine qui nous plaise bien de notre frère de boire un verre avec nous. Pourquoi ? Parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être embarrassé. Mais qu'est-ce que c'est l'embarras ? C'est juste un sentiment désagréable. Et donc en fait, c'est encore un exemple de notre société qui est plus avancée que notre biologie. L'embarras, ça sert de quand on habitait toujours dans les tribus et qu'il fallait survivre en tribu, on faisait pas des choses embarrassantes parce que si vous êtes éjecté du tribu, vous risquez la mort, d'accord ?
Ne plus manger, se faire manger par un animal.
Exact. Donc aujourd'hui, si vous vous ridiculisez ou si vous dites une chose qui vous embarrasse, ok, vous risquez des trolls sur Twitter à la limite. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec sa réputation. Mais l'embarras, c'est rien d'autre qu'un petit sentiment désagréable et on se prime de telles opportunités par peur de cette petite sentiment.
D'ailleurs, quand on se sent ridicule, il y a une manifestation physique. Souvent, on rougit. C'est ce qui m'est arrivé au tout début de cette émission. Quand j'ai lancé le disque au lieu de la bulle, je me suis dit, oh là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Des fois, on fait des petites erreurs comme ça. J'ai rougi. Et c'est ça, en fait, rougir, c'est ce qui nous rend humains, en fait, finalement.
Bien sûr.
Et les animaux ne rougissent pas.
Alors, sur le visage, non. Il y a certaines espèces de singes qui se rougissent sur les fesses quand ils sont excités après avoir vu une femelle qui les plaisait bien. Hein. Mais
Moi, c'était le visage, personnellement.
Donc, on confirme bien que c'est le visage de Mélanie qui rougit. Hein.
On a pas vu le reste, hein, excusez-moi.
Ça commence bien.
La confirmation comme ça, mais attention.
Oui, c'est pas ce genre d'émission, j'ai compris. Mais autant que coach en prise de parole, j'ai souvent la question, qu'est-ce que je peux faire pour ne pas rougir? Et la réponse, c'est rien. Donc en fait, on peut rendre plus rapide ce moment où le rougeur va baisser, d'accord? Et la seule manière de faire, en fait, c'est avec le corps. C'est-à-dire que la manière d'arrêter de rougir, c'est de se comporter comme nous sommes plus embarrassés, en fait.
C'est-à-dire, par exemple, je fais quoi
Ça veut dire prendre l'espace. La confiance en soi, ça prend de l'espace, d'accord? Donc, quand je m'assois tout petit, tout s'écroupillé, je pense que ça, c'est un mot en français, ouais. Sur moi...
Écroupillé, je ne sais pas si c'est français, mais bon, on va l'accepter, ouais. On va se mettre sur soi, comme ça, en boule.
Voilà. Ouais. Hashtag immigrante. Hein. Donc, on ne prend pas de l'espace, mais en fait, ceux qui ont confiance en eux, ils prennent de l'espace, ils font des gestes, ils se bombent le torse, ils regardent leur interlocuteur sans gêne.
Et ça, ça fait dérougir.
Absolument. Donc en fait, c'est encore un exemple de le corps qui influence l'esprit. Et c'est ça ce qu'on essaye de faire avec le yoga du rire, qu'on va faire plus tard. C'est que on est souvent trop dans notre tête. D'accord. Tout à l'heure, vous avez fait une petite bafouille, vous avez lancé la chanson au lieu de la pub, et vous vous flageolez, et je dis non mais je suis nulle, ah, c'est le lundi, j'arrive jamais à être bon le lundi, ok.
Donc c'est... Ça, c'était du off, non mais c'est pas grave.
Mais c'est une petite crise existentielle en disant que j'ai rougi, donc je suis sûre que à part des deux ou trois trolls, donc merci sur Twitter qui vont dire oh Mélanie elle a lancé la pub et non lieu pas la chanson, ok. Donc vous arrêtez d'être nulle, hein, c'est pas sympa, mais je vais dire, à part de ça, c'est fini. Donc, c'est toujours plus grave pour nous que pour les autres, ouais. D'accord ? Donc, le petit embarrassement que nous puissions avoir, ouais. Si une fille nous rejette, si on fait une bafouille, etc.
Moi, j'avais fait exprès, en fait, pour qu'elle ait des choses à raconter, comme ça, dès le début de l'émission. Non, c'est pas vrai.
Et je vous remercie, Mélanie, tellement un esprit d'équipe chaque fois que je viens ici. Hein. Donc, c'est l'auto-embarras, c'est pour vous entraîner que ce n'est pas grave si on fait une petite erreur.
Jimmy.
Alors, en tout cas, si la direction d'Europe 1 avait loupé la bafouille de Mélanie, je peux vous dire que tout le monde est au courant à tous les étages. On l'a dit 4 fois, donc très bien, c'est passé. Maintenant, spontanément, on a tendance à éviter les situations embarrassantes pour éviter d'être ridicule. Et vous dites au contraire, il faut aller vers ces situations, il faut s'entraîner à être ridicule. Donc, on fait ça combien de fois, par exemple, par semaine?
En sécurité. Donc, je précise, en sécurité. Donc, encore une fois, je reprends la métaphore du vaccin. Ce n'est pas dangereux de donner un tout petit molécule d'une maladie à ses enfants pour leur protéger plus tard. Et c'est la même chose avec l'auto-embarras. Je vous donne un exemple. On a des critères chez nous pour pratiquer l'auto-embarras. Il faut dans aucun cas est-ce que ça nuit à votre réputation. Il faut que ça soit encadré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, je vais dire, ah, j'ai entendu sur Europe 1 qu'il faut s'auto-embarrasser et ensuite vous promener dans votre quartier en slip. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'il y ait des règles pour que vous puissiez dire, je pratique le XYZ. Et les gens, ils vont dire, ok, c'est bizarre, mais au moins, c'est un truc. Okay? Donc, je vous donne un exemple de un des choses qu'on fait chez nous pour s'auto-embarrasser. Ça s'appelle le mortified. D'accord ? Mortified, c'est un peu comme les phénomènes de TED Talks ou des présentations que nous puissions faire. Vous montez sur scène devant des centaines de gens. Ça existe dans des pays partout dans le monde.
Mortified.
Mortified. Et c'est des gens des États-Unis qui sont venus pour nous former à produire des spectacles Mortified. Et des adultes sur scène devant des centaines de gens dans un théâtre parisien vont lire leur journal intime d'ado.
Oula, oui, effectivement, c'est très gênant ça.
Ouais, comme okay. Ça donne pas très envie.
Je sais pas si vous en avez un, moi j'en ai un, mais je le lirai jamais en public.
Donc j'ai bien retenu que vous en avez un, Mélanie, parce qu'on planifie la prochaine.
J'ai 17 ans, je crois.
Super. Donc on planifie le prochain Mortify, donc je vous ai bien retenu comme candidat. Mm-hmm. Mais c'est.
J'ai jamais dit ça, mais d'accord.
Mais c'est mortifiante, d'accord. Ouais. Donc moi, quand j'avais fait, par exemple, je me souviens qu'à l'âge de 17 ans, quand j'ai compris. Ce que c'était des fellatios, ok. Je me suis dit, waouh, ça a l'air pas si horrible comme ça, et on dirait que des mecs, ils aiment bien ça. Donc moi, j'ai construit un business plan sur comment j'allais faire ça pour de l'argent pour financer mes
dans
études.
Dans votre journal intime.
Ah, oui. Ok.
Ah, donc c'est très gênant.
Non, mais c'est extrêmement gênant. Ouais. Je veux dire. Et donc quand on a fait ça, la dernière Mortified, il y avait littéralement, on a dû payer le théâtre parce qu'il y a littéralement une dame qui pissait de rire. Je sais pas si on a le droit de dire pisser à la radio.
T'as pipi.
Ouais. faire pipi, pardon. Et donc, et c'est tellement, tellement, tellement drôle, mais c'est dans un cadre. C'est dans des pays partout dans le monde. On était formés par des gens qui sont des pros de l'entertainment sur comment le faire. Il y a une série Netflix sur le Mortify.
Et quand on sort de là, on doit être bien, hein, on se sentir mieux, hein, c'est vrai.
Ben oui, on se sent puissant parce qu'on se dit comme un vaccin. Je vais dire que...
J'ai raconté le truc le plus honteux de ma vie, entre guillemets, donc là, il n'y a plus rien qui peut m'arriver.
Et il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Mmh.
Annabelle, on va faire que commencer cet entretien. Vous restez bien sûr avec nous. Europe 1. Dans un instant, nous allons continuer cet entretien sur le ridicule dont on peut finalement se servir pour devenir plus performant au quotidien. Et justement, un truc assez ridicule à voir quand on n'est pas dedans, en tout cas, c'est le yoga du rire. Avec Annabelle, notre invitée, elle a découvert cette pratique qui fait un bien fou en Inde et elle va tout nous expliquer. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, Annabelle Roberts. Vous êtes spécialiste de la prise de parole en public et vous êtes également autrice de La théorie de la veste aux éditions Flammarion. Alors Annabelle, avant de passer à la pratique, car vous allez peut-être nous raconter quand même comment vous l'avez découvert finalement, ce yoga du rire dont on parle depuis le début de l'émission. C'est tombé au bon moment pour vous parce que vous étiez en fait en plein divorce professionnel. Ouais. En plus, enceinte jusqu'au cou, hein, faut ouais. le dire. Et c'était vraiment un moment, vous n'étiez pas en forme, hein, vous et vos équipes d'ailleurs.
C'est ça, l'équipe n'était pas en forme. J'étais à un moment où j'étudiais le rejet parce que j'ai vu le pouvoir de surmonter son rejet pour signer des clients. Et nous, les entrepreneurs, signer des clients égale création d'emploi, égale bonus, égale la vie, quoi. Et donc, j'étais en train d'étudier et je me suis rendu compte que tout le monde ne peut pas sauter tout de suite dans un quota de veste. Donc, pour pratiquer la théorie de la veste, il faut s'imposer un quota de veste à prendre tous les jours. Et il fallait trouver quelque chose comme un espace d'entraînement. C'est-à-dire que si vous êtes sportif, ce n'est pas les Jeux Olympiques tous les jours. Il faut que vous vous entraînez dans la sécurité d'une arène, avec un coach, dans la bienveillance, avec le droit de l'erreur et tout. Et donc, on cherchait un exercice qui pourrait nous faire des... un espèce de coquille à le rejet. Et de...
Vous étiez fragilisé, vous et vos équipes, parce que vous vous sépariez d'une associée. Enfin, c'était
tout
ça,
était hein, ouais. sérieux, tout ouais. était sérieux, tout était prise de tête. Et on avait vraiment besoin de à la fois avancer dans nos recherches de rejet et à la fois nous faire du bien. Quoi. Mmh. Et c'est là où j'ai trouvé ce vidéo. C'est aujourd'hui même le vidéo le plus ridicule que j'ai jamais vu de ma vie, de quelqu'un qui faisait le yoga du rire.
Sur Internet, vous avez trouvé ça.
Voilà.
Ouais.
Donc, au partir du moment où j'ai trouvé ça et le moment où les billets, été prise, je pense qu'il y a 20 minutes qui se sont passées. Il fallait un
billet pour l'Inde, hein, quand même.
Ah oui,
je
oui,
précise,
oui, pour ouais. l'Inde. Mmh. Annoncer ça à mon mari, je vous dis que c'était pas le plus simple.
Hein. Vous disiez presque à 8 mois de grossesse, hein, je crois.
Il fallait une permission spéciale pour voler. Et, mais arrivé dans notre havre de paix, ça s'est passé à l'école de la sagesse ancienne à Bangalore. Et on voit le docteur Kataria parce que le yoga du rire était inventé par un médecin, avec des règles spécifiques et des études prouvées qui montrent le bien que ça nous fait. Pratiqué dans presque chaque pays du monde. Il y a des chapitres de yoga du rire en Irak, en Corée du Nord, et partout. Et c'est là où on s'est dit, ok, on peut s'auto-embarrasser, mais si quelqu'un nous demande, vous avez perdu la tête, qu'est-ce que vous faites? On dit non, 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 c'est une pratique internationale inventée par un médecin. Donc ça n'abîme pas notre réputation. Mmh. Et quand le docteur Kataria, qui a inventé le yoga du rire, on rentre, on reçoit une magnifique collier de fleurs autour
vous
de notre cou.
Vous arrivez là-bas, c'est le paradis. Hein.
Ah non, enfin, quand on quitte l'avion, ce n'est pas le paradis. Donc pour ceux qui découvrent l'Inde, moi j'étais là genre, mais l'Inde, pourquoi tout le monde dit oh, c'est un pays de tiers-monde? Je veux dire, le PDG de Google, il vient d'Inde, ça peut pas être genre le mouk-mouk non plus. Hein. Ben, on quitte et c'était vraiment dépaysant, mais total. On sent des choses qu'on n'a jamais senties.
Agréable ou moins.
Hein. J'ai transpiré dans les endroits où j'ai jamais transpiré. Okay, mais quand on est arrivé chez le docteur Kataria, il débute. Un monsieur qui a l'air sérieux, comme le docteur Jimmy.
Oui, qui pour l'instant ne sourit pas beaucoup, mais ça va venir. Hein. Il oui, va rigoler avec nous dans pas longtemps.
C'est mon challenge pour aujourd'hui. Ouais. Et qui nous dit bonjour, bienvenue. Et ensuite, qui fait... Et moi, j'étais là genre, on est chez des fous. J'ai dit là, j'ai... Non, J'ai dit, je pense que c'est exactement ça, ce que je pensais que je voulais, mais là j'ai changé d'avis. Il est taré ce gars en fait.
Médecin généraliste, hein, je crois, de formation.
Ouais. Exact, pratique.
Comme vous, Jimmy,
inventé le yoga du rêve il y a plus de 20 ans. Ok, mais en fait après là donc ça peut-être Jimmy sera pas d'accord et c'est anecdotal comme preuve. Ok, mais quand je suis arrivée à l'Inde, je suis arrivée en chaise roulante. J'avais un nerf pincé dans le dos qui m'empêchait m'empêchait à marcher plus de 10 mètres. Des escaliers étaient impossibles pour moi. Après une semaine de yoga du rire, on a roulé par terre, on a ri pendant des heures et des heures. J'ai marché jusqu'à la fin de ma grossesse sans problème.
Jimmy, vous donc, y croyez
pour, non, mais vous le dites, donc moi je vous crois personnellement. Donc ça veut dire qu'après une vidéo de rire, vous avez pris des billets d'avion pour l'Inde en étant enceinte de 8 mois avec une sciatique.
Là, il n'aurait pas du tout validé médicalement.
Vous avez du mal à marcher dans une réforme de reconversion professionnelle et arriver là-bas, ça allait mieux, mais en faisant quoi en fait? En rigolant, simplement en chantant. En faisant vraiment
semaine,
de vrais
exercices. Vous êtes restée, ouais.
C'est pas juste mettre ce que moi je peux rigoler, je mets des vidéos sur YouTube, je regarde des vidéos marrantes et je vais rigoler. C'est différent du simple rire qu'on peut avoir en regardant.
C'est pendant une semaine, on fait quoi très concrètement?
Pendant une semaine, on fait trois choses. Le premier, c'est rire sans raison. D'accord ? Parce que le corps ne connaît pas la différence entre un vrai rire et un faux rire. Un rire forcé nous fait autant de bien physiologiquement qu'un rire vrai, un fou rire.
Parce que ça, le rire, on en a déjà parlé, Jimmy. On sait que rire, oui, ça fait sécréter de bonnes hormones, les hormones du bonheur qui font du bien. C'est ça. Mais même s'il est faux, ça marche aussi.
Exact. La deuxième chose, c'est la respiration yogique. Je ne sais pas si c'est un mot en français, mais appliquée au rire. D'accord ? Et la troisième chose, c'est qu'on apprend aussi la méditation, donc la méditation de rire. Et on a passé une semaine, 9 heures par jour, à rire, à méditer, à respirer en riant. Et ça a fait un bien fou. Et donc, on se rend compte que c'est le docteur Kataria qui dit « on ne peut pas contrôler ce qui va se passer dans la vie ». On peut que contrôler notre réaction, soit on rit, soit on pleure. Et nous, on choisit de rire. Nous, on choisit rire. Je ne sais pas.
Vous étiez avec deux de vos collaborateurs, vous êtes partis à trois, je crois, et pendant une semaine, vous vous roulez par terre. Mais comment ça se passe en pratique? Vous dites, par exemple, on rit pour rien, d'accord? Enfin, c'est pas évident de se lancer. Au départ, est-ce qu'on commence, je sais pas, par se raconter des blagues, par exemple? Vous venez tous avec une dizaine de blagues dans la
des
tête.
Des blagues et...
ouais, je sais pas. Moi, je les oublie toujours, les blagues, mais bon, j'aurais préféré. Si je me m'apprête à faire un stage comme ça, j'en mets deux, trois de côté, quoi.
Donc, en fait, on se rend compte que... c'est pour ça que le yoga du rire, c'est rire sans raison. Parce que le club de yoga du rire qui était commencé dans un parc public à Bangalore par le docteur Kataria, qui justement faisait des recherches sur les bénéfices du rire sur le corps. Et donc, il a dit, je vais commencer un club de rire. Et il commençait à raconter des blagues. Mais vite fait, ils n'avaient plus de blagues.
On arrive à court. Oui,
c'est ça.
Moment, ouais.
Et il a dit, j'ai arrêté quand quelqu'un a raconté une blague raciste.
Ah bah oui.
Et ouais. Donc là, il a dit non, il faut qu'on trouve un autre moyen. Et c'est là où il dit que, bah écoutez, faire du yoga, c'est s'étirer sans raison. Et donc, on va faire le yoga du rire, on va rire sans raison. Et donc là, il a inventé des exercices de yoga du rire. Il y en a des centaines. Donc, j'en ai même un que j'ai inventé spécifique pour vous, Mélanie et Jimmy, sur Europe 1.
Ouais,
c'est le yoga du rire de antenne de radio qu'on va faire tout à l'heure. Et en fait, on se rend compte que le rire génère le rire.
Ça, c'est vrai quand même. Parce que c'est pour ça qu'on part parfois tous en fou rire quand il y en a un qui rigole. Si on le regarde, c'est vrai que s'il peut plus s'arrêter, c'est contagieux. Quoi. Il y a ce truc-là aussi. Hein.
Absolument.
Ouais. Et quand vous êtes rentré de ce voyage, vous y alliez donc pour apprendre à la fois sur vos recherches par rapport à l'auto-embarras, etc. Mais parce qu'il y avait ce divorce professionnel qui était toujours là quand vous êtes rentré. Est-ce que les choses vous sont parues, je ne sais pas, plus simples, différentes quand vous êtes revenu?
Bah, totalement. Donc en fait, nous, je ne sais pas si c'est vrai, mais dans notre équipe et dans ma société, on a découvert que le reset pour le team building, ça veut dire rendre l'équipe plus fort, c'est vulnérabilité plus bienveillance égale croissance
de l'entreprise et de
team building. Donc désolé d'employer un anglicisme, mais vulnérabilité plus bienveillance et respect pour
tout
cette
ça
vulnérabilité
renforce esprit d'équipe et
égale esprit d'équipe qui va croître. Et donc c'est impossible de ne pas être vulnérable quand vous êtes avec des gens de partout dans le monde et vous êtes le docteur vous dit mais allez-y faites ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha.
Ça y est,
c'est tellement ridicule.
Très bizarrement.
C'est tellement ridicule et qu'on le fait ensemble et qu'on est bienveillant et on respecte la vulnérabilité dans le cas notre collègue se met, qu'on voit cette croissance grandir.
Merci Annabelle. On va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien. Jimmy, attends ça avec impatience dans quelques minutes.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous Annabelle Roberts. Vous êtes spécialiste de la prise de parole en public et autrice de La théorie de la veste aux éditions Flammarion. Alors Annabelle, on va passer à la pratique du yoga du rire. Jimmy, je le sens très inquiet, mais on va y aller, on va y aller. Vous allez être notre maître yogi du ridicule aujourd'hui. D'abord pour démarrer, est-ce qu'il faut être, je sais pas, debout, assis, dans une pièce avec de l'espace? Est-ce que le contexte, finalement, l'environnement, ça compte ou ça peut se faire n'importe où?
Ça peut se faire n'importe où.
Dans un studio radio.
Dans un studio radio, dans le trafic, dans votre voiture, vous êtes énervé parce que le trafic ne bouge pas. Vous pouvez faire un peu de yoga du rire avec vos enfants qui sont pas de bonne humeur, etc.
En fin de journée, là, quand ça crise, tout le monde un peu.
Voilà, ouais. Au début de journée pour bien démarrer la journée. Okay, donc le yoga du rire, en fait, c'est rire sans raison et c'est combiner la respiration yogique avec des pratiques de yoga du rire. Okay, donc on va apprendre trois choses aujourd'hui. Le premier, c'est comment respirer façon yoga du rire. Le deuxième, c'est le chant de yoga du rire qui est quand même la base et le début de votre aventure dans le ridicule.
Okay? Alors, comment on respire déjà alors?
Donc, la première chose qu'on va faire, c'est que comme une bonne respiration, on va respirer par le ventre, d'accord? On va être tonique dans le ventre et on va, comment dire, prendre de l'air.
Dans le ventre, c'est pas évident parce qu'il n'est pas
on
très tonique.
On va respirer par le nez. Mais... Et normalement, là, on aurait fait comme ça par la bouche, on va rire. Donc, ça ressemble à ça. D'accord. À vous. C'est prêt?
Ouais, on fait avec vous. Hein.
Alors, juste pour commencer, on est d'accord que commencer à la radio avec quelques... Pas centaines de milliers d'auditeurs, c'est pas forcément simple. C'est peut-être mieux de commencer chez soi déjà face à un miroir.
Non, mais il recule déjà, il recule déjà.
Non, mais est-ce que c'est pas mieux déjà au moins à la maison, déjà face à un miroir, c'est peut-être même difficile de se regarder et de faire ça, cet exercice.
Écoutez, il veut pas le faire. Hein, tout à l'heure, nous avons parlé de comment il faut pas picoler quand on boit de l'antibiotique. Si vous avez peur de commencer le yoga du rire, moi je vous conseille de le faire en apéro. Parce que en anglais, on appelle l'alcool, on appelle ça du courage liquide et il a pas volé son nom. Donc après, peut-être un verre, vous pouvez essayer le yoga du rire, vous avez entendu ça sur Europe 1, vous dites, bon, c'est quand même complètement stupide, mais j'ai envie d'essayer.
Je pense que Jimmy, le médecin, jamais conseillera aux gens de boire un verre pour rigoler, mais admettons, d'accord.
Ok, donc ouais, pendant
avec
l'apéro,
en tout cas.
Ouais. Ok, et donc, on aspire et on va expirer en riant.
D'accord.
Jimmy, ouvrez-vous là.
Ouvre la cage thoracique.
Faites
ouvrez la cage thoracique,
ouais, voilà, ok. Ah donc. Ok, donc Jimmy...
Moi, c'était bien, lui, c'était nul,
on va passer au chant, parce que je pense qu'il a besoin d'être un petit peu plus encadré pour jouer le jeu, ok? Donc, je sais pas comment vous avez grandi, Jimmy, mais je sens une grande appréhension, par rapport à l'auto-embarras. C'est le moment de vous lâcher, là, Jimmy. C'est le moment de vous lâcher, ok? Donc, on va passer à le chant de yoga du rire, qui est le début et la fin de chaque exercice. Et ça ressemble à ça. On va taper dans les mains, d'accord? On tape pas comme ça, comme on est sur un terrain de golf ou au ballet. Je sais que vous êtes philosophique, les Français, mais aujourd'hui, c'est le nord-américain. Okay, et donc, il faut comme ça, parce qu'on va activer les points d'acupuncture qui va nous aider à avoir ces bons feelings, ces good vibes. Okay, et donc, on va faire comme ça. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Jimmy, ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Very good, very good, yay! Very good, very good, yay! Ok?
Allez, alors, donc c'est les deux mains l'une face contre l'autre, hein,
voilà,
c'est ça?
Et c'est ça.
Pas, on n'applaudit pas comme
donc,
ça de travers.
Maintenant, on va faire un exercice complet de yoga du rire. On va faire un ho-ho-ha-ha. Ensuite, je vais vous montrer un exercice de yoga du rire qui est le yoga du rire de la radio.
D'accord.
D'accord? Donc, ça ressemble à ça. Okay? On va mettre nos antennes de radio, chaque, une sur chaque côté de la tête pour bien réceptionner les signaux d'Europe 1 et bien réceptionner les conseils de Dr Jimmy.
Là, c'est les antennes sur la tête. En fait, elles nous demandent de mettre donc, nos index sur notre tête.
Exact, comme deux antennes sur la tête.
Très, très malin.
Okay? Jimmy, et après, allez, on va rire. Donc, ça ressemble à ça.
Vous avez fait des trucs pires.
Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Et... Ok, donc il faut bouger ses antennes sur la tête pour bien réceptionner les ondes. Sinon, on ne va pas entendre les conseils de Dr Jimmy qui sont quand même exceptionnels. Ouais.
Ok.
Donc, Jimmy. Jimmy.
Oui, pardon.
Prêt? Non, mais Jimmy. Allez, allez.
Qu'est-ce
que
je fais là? La saison s'est bien passée, Mélanie. Pourquoi vous nous faites ça à la fin? On était bien.
On avait besoin de se détendre un petit peu.
Oui, très bien.
Voilà.
L'embarras, c'est qu'un petit sentiment désagréable. Ouais. Ça tue pas, Jimmy.
Moi, j'ai les antennes sur la tête. Hein,
ok, donc on fait
bon.
Encore une fois.
On va recommencer.
Okay. Un. Et. Very good, yay! 10 ans après le bac, Jimmy, pour faire ça. Ok, donc.
Alors, Annabelle. Pour ceux qui ont la vidéo, je vous invite vraiment à regarder parce que ça, Jimmy avec des antennes sur la tête, c'est quelque chose.
Mais donc, surtout les grands yeux.
Ouais, les grands yeux sont très étonnants et nous font rire. Déjà, rien que de le regarder, on n'a pas besoin de se raconter des blagues, là, ça suffit. Qu'est-ce que ça provoque, toutes ces séances? Donc, on va faire tous ces exercices. Ça dure combien de temps, une séance de yoga du rire efficace pour qu'elle nous fasse du bien?
Alors, une bonne séance, bien comme il faut, dure entre 8 et 10 minutes.
D'accord.
Ok.
C'est pas que les antennes, il y a plein d'exercices différents. Ce qu'on vient de faire, c'est un petit exemple d'enchaînement, mais il y en a, vous disiez, des centaines, hein, c'est ça?
Absolument, il y a des centaines, il y a des chants. En fait, le but, c'est de retrouver cet enfant qui est en vous, c'est-à-dire que les enfants, ils rigolent sans penser qu'est-ce que l'autre va penser à moi, il joue.
Jimmy, c'est pas encore ça, hein. Il va falloir l'aider un peu, je pense. Hein. Vous allez le prends en séance perso parce qu'il a du mal à se lâcher quand même.
Je ris intérieurement, en fait. C'est-à-dire que là, je rigole, ouais. Ça ne se voit pas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas appliquer ça, par exemple, dans les entreprises? On a une culture française un peu particulière du travail où il faut être présent très tôt, partir très tard, ne pas se reposer, toujours montrer qu'on est très productif. Est-ce que, je sais pas, il faudrait pas faire ça à la pause déjeuner? Après une réunion parfois un peu chiante ou des trucs un peu compliqués pour essayer d'aller mieux?
Déjà, il ne faut pas faire violence. Il ne faut pas imposer quoi que ce soit. Donc aujourd'hui,
c'est pour ça que vous ne l'avez pas forcé trop. Hein, Jimmy,
voilà, j'ai un peu forcé le trait avec Jimmy. Mais si, par exemple, on était en entreprise ou on faisait ça entre nous...
Vous faites des stages en entreprise de yoga du rire, ça vous arrive?
Alors, le yoga du rire, on utilise comme un outil. Mm-hmm. Parce que quand il s'agit de oser... ne plus avoir peur du rejet, ou quand il s'agit d'oser de prendre la parole devant des centaines de gens, il y a des gens qui ont des vraies phobies de ça. Hein. La glossophobie, ça existe, c'est vrai. Et donc, on utilise comme outil de leur montrer...
Pour les décoincer un peu, quoi, c'est ça.
Exact. Et de leur montrer que la honte ne tue pas, que le rejet ne tue pas, que être embarrassé, en fait, et être capable d'être performant malgré cet sentiment d'embarras, est un super pouvoir. Donc il y a un tel genre que deux qui sont rejetés, deux qui sont embarrassés, deux qui ont bafouillé, deux qui ils sont en train de penser « je viens de faire des trucs ridicules à la radio, qu'est-ce que Twitter va dire là dans une demi-heure, j'ai trop peur, je vais perdre des followers. »
Je pense qu'il pense même pas ça, c'est juste qu'il n'arrive pas à... Hein, Jimmy, vous inquiétez même pas inquiet de ce qu'on pourrait dire
non,
de vous.
Il y a la posture aussi du médecin, c'est un peu particulier de paraître ridicule alors qu'on est censé avoir un ton un peu solennel et représenter une forme d'autorité un peu morale. Donc c'est vrai qu'il y a ça, mais parfois je me rends compte que chez les enfants, par exemple j'ai mon fils de 6 ans qui me demande souvent de lui raconter des blagues, il a envie de rire, puis j'en sors une ou deux, pince-mi et pince-moi, bon bah ça va être 2 minutes, et puis après on sait pas, est-ce qu'on pourrait commencer ça avec des enfants en fait,
bien
tout simplement
sûr.
Dire on va rire, même s'il n'y a pas de blague, on va rire ensemble.
Donc il y a des écoles en Inde avec des centaines d'élèves qui font des exercices de yoga du rire. Mais je veux juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, docteur Jimmy, c'est que le médecin doit avoir une certaine posture, et je trouve que c'est une vraie différence culturelle entre la France et le Canada, là où je viens, que autant que Canadienne, je sais que nous puissions faire du travail sérieux sans se prendre au sérieux. Et je vais dire que mon cabinet, c'est pas Facebook, c'est un petit cabinet, mais quand on regarde nos références, bah, la CAC 40 est
avec
nous.
Vous avez un cabinet de communication. Enfin,
exact, exact. Et donc les gens, ils arrivent sur notre site et ils voient Yogi du rire, on a des licornes et des paillettes sur notre site, mais après ils voient nos références et ça les fait réfléchir deux fois. Donc n'oublie pas que nous puissions être sérieux, nous puissions être performants, nous puissions être professionnels sans se prendre au sérieux. Parce que trop de sérieux, comme tout, dans les mauvaises doses, ça peut être toxique.
Vous avez des grands chefs d'entreprise à qui vous avez fait faire du yoga du rire?
Alors, nous avons mieux que ça. Nous avons des gens dans le gouvernement français qui ont fait le yoga du rire. Nous
ça
avons,
vous calme, hein, Jimmy.
Nous avons des sous-gouverneurs et des gouverneurs des banques centrales dans les pays européens qui ont fait le yoga du rire. Nous avons des gendarmes qui ont fait le yoga du rire.
Ouais. Donc vous voyez, finalement, on a parlé de quelque chose de très sérieux, Jimmy. La prochaine fois, vous vous lâcherez un peu plus, d'accord?
Promis.
Bon, très bien. Merci beaucoup, Annabelle Roberts, d'avoir été avec nous pour tous vos précieux conseils, comme toujours, et surtout pour votre bonne humeur communicative qui nous fait toujours beaucoup de bien. Merci beaucoup, Annabelle.
Merci, Mélanie. Merci, Jimmy.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique Les Bobos du quotidien. Nous allons faire un point sur un examen que vous serez peut-être tous un jour amenés à subir, le fond d'œil. Savez-vous comment cela se déroule précisément et à quoi cela sert-il? Quelle maladie de l'œil éventuelle cela permet de dépister? Nous allons tout vous expliquer. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur un examen que vous serez peut-être tous amenés à subir un jour. Savez-vous ce qu'est le fond d'œil, savez-vous comment cela se déroule précisément et à quoi sert cet examen concrètement? Justement, Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
De recettes de cuisine comme un fond de poireau, on peut faire ça. Et un fond d'œil, c'est à peu près la même couleur quand on a les yeux verts. Non, je sais pas du tout. Un fond d'œil, c'est, l'iris, non, je sais pas.
C'est en gros pour dilater la pupille. C'est pour voir, je pense aussi, s'il y a de la tension dans l'œil.
Alors moi, je vois ça quand on fait un fond d'œil, genre quand je vais chez l'ophtalmo et que on met une petite pipette jaune bien sympa, où après t'as un bon dégueu qui te te met dans l'œil. Tu vois plus rien et du coup t'es en mode aveugle. On doit t'accompagner, type un aveugle dehors.
Mais je sais que les gens ont du mal à, après ne peuvent pas conduire ni rien. J'ai déjà accompagné des gens pour les ramener en voiture.
C'est pas quelque chose qui fait mal, c'est juste désagréable parce que du coup ça nous donne une vision floue.
Je pense que c'est plutôt les gens qui ont de la presbytie.
C'est pour détecter une maladie des yeux. Meilleure laquelle, je sais pas trop. J'en ai aucune idée si c'est une histoire d'astigmatie, de myopie ou autre, je ne sais pas.
Bon Jimmy, on va reprendre tout depuis le début. D'abord, le fond d'œil, ça n'a rien à voir avec le fond de veau, le fond de poireau. Non, ouais. Ça n'a rien à voir.
C'est
il y a
recette.
Le mot œil dedans. En quoi ça consiste cet examen qui permet de visualiser quoi finalement dans
alors,
l'œil?
Alors c'est un examen qui est vraiment simple et indolore. C'est avec un petit appareil, un dispositif optique. On peut observer de manière très fine le pôle postérieur de la rétine avec ses vaisseaux sanguins. La macula, c'est en fait la zone centrale de la rétine qui est responsable de la vision précise, mais aussi ce qu'on appelle la papille, qui est la tête du nerf optique et qui véhicule les informations visuelles jusqu'au cerveau.
Alors, quand on y est, ça se passe comment cet examen? Moi, j'en ai déjà passé, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde encore. Je crois qu'il y a d'abord une petite préparation. Enfin, moi, on m'avait mis des gouttes dans les yeux. Je ne sais pas si...
Oui, alors, plutôt, ça se fait souvent avec cette petite goutte dans les yeux qui permet de dilater et d'avoir justement cette pupille qui est plus large et du coup, de voir un peu mieux les détails des vaisseaux. Mais ce n'est pas systématique. D'autant plus qu'avec les nouveaux appareils, eh bien parfois on peut voir la partie centrale du fond d'œil, enfin de la rétine, sans avoir recours à la dilatation, mais souvent quand même, pour mieux voir, on vous met cette petite goutte qui fait que la conduite est un peu difficile au retour.
Alors, pour en savoir plus sur le but de cet examen et ce qui permet de dépister comme maladie ou problème ophtalmologique, nous avons interrogé un spécialiste, le docteur Damien Gatinel. Il est chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild. On l'écoute.
On pourra par exemple dépister ou suivre un glaucome en regardant l'état du nerf optique. On peut bien sûr diagnostiquer une DMLA. Et puis d'un point de vue général, les examens du fond d'œil sont parfois demandés par des médecins généralistes dans le cadre du suivi du diabète pour dépister ou suivre une rétinopathie diabétique ou aussi dans le cadre d'une hypertension artérielle parce que la rétine est un tissu très vascularisé et c'est une sorte de fenêtre unique qui s'offre aux médecins et à l'ophtalmologiste pour juger l'état de la microcirculation.
C'était le docteur donc Damien Gatinel, qu'on salue car il vient souvent dans cette émission au micro de Benjamin Lévesque. Alors Jimmy, cet examen il est très utile et donc le docteur Gatinel vient de le dire dans le suivi notamment de la rétinopathie diabétique. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur ce mal? Est-ce que c'est très fréquent chez les personnes qui souffrent de diabète?
Alors, la rétinopathie diabétique, ce sont des lésions de la rétine, encore une fois. C'est une grave complication du diabète qui touche 50% des diabétiques de type 2, à des degrés évidemment variables de sévérité, selon la Fédération française de diabétologie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le diabète est responsable de 12% de l'ensemble de cas de cécité dans les pays occidentaux. Donc c'est vous dire que c'est un problème qui est plutôt fréquent et très préoccupant, d'autant plus que cette rétinopathie chez les patients diabétiques n'est pas forcément douloureuse, vous n'avez pas de symptômes. Le diabète c'est un tueur silencieux comme l'hypertension artérielle et à partir du moment où vous commencez à avoir...
On a cette rétine qui est atteinte et il n'y a pas forcément. Tout de suite une baisse oculaire...
Et au bout d'un moment vous pouvez avoir les lettres déformées, des difficultés lorsqu'on passe de la lumière à l'obscurité, raison pour laquelle il est très important lorsque vous êtes diabétique d'avoir ce suivi régulier.
Très régulier c'est quoi? Tous les 6 mois,
tous les ans ouais. Ça peut... Alors, c'est... au moins une fois, et puis après l'ophtalmologue vous dit en fonction des symptômes que vous avez, si on se revoit dans 1 an, dans 3 ans ou dans 5 ans, mais bref, il faut se faire suivre et ne pas attendre d'avoir ces symptômes, c'est vraiment dans le cadre classique, même chose pour les complications cardiaques, donc on dit oculaires, donc faites-vous suivre et allez voir le médecin traitant qui vous adressera vers l'ophtalmo.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Aujourd'hui, on va répondre à cette question de Chloé, 29 ans. J'entends parler autour de moi des plans dodo, mais je n'arrive pas à comprendre ce que ça peut apporter ni pourquoi certaines personnes font ça. Expliquez-nous s'il vous plaît, Catherine. D'abord peut-être, oui, expliquez-nous, parce que c'est quoi un plan dodo? Alors on comprend un peu dans l'intitulé, hein, il y a une histoire de dormir, mais c'est un plan, c'est quoi?
Oui, alors comme, alors je n'aime pas trop ce terme, mais comme il y a des plans cul, pardonnez-moi l'expression, puisque il faut prendre les termes de la génération qui les utilise, eh bien, c'est-à-dire quelqu'un que l'on rencontre à but uniquement de sexualité, sans lien aucun, même d'ailleurs sans connaissance parfois de l'autre.
C'est la soirée pyjama qu'on avait dans notre enfance, en fait.
C'est ça. Et ça, c'est la soirée, voilà, c'est la soirée pyjama, mais simplement, c'est dodo, c'est
en sens mode adulte, quoi.
En mode adulte, et puis c'est câlin, c'est tendresse, c'est dans les bras l'un de l'autre, sans sexualité aucune. Et du coup, c'est quelqu'un qui est pris pour ce rôle-là.
Jimmy et moi, on est un peu de la même, je pense qu'on est de la même génération, on trouve ça un peu bizarre.
C'est alors,
bizarre,
pensez-moi.
Jimmy, allez-y. Je suis perplexe, mais ils ont qu'à se trouver un copain ou une copine, non?
Pourquoi vouloir dormir avec quelqu'un?
Quel est l'intérêt, en fait, de prendre une personne comme ça pour un plan juste pour du réconfort? Est-ce que ça témoigne pas un peu du manque de relations qu'on peut avoir en journée et qu'on cherche à compenser le soir? Je trouve ça même un peu triste, non?
Oui, en fait, ce que je trouve très triste, c'est que ça montre effectivement la difficulté qu'ont les gens à avoir des liens sociaux, de tendresse, même amicaux, parce que quand on est amis, on peut aussi se faire des super hugs, les moments de tendresse où on s'écoute, etc. On n'est pas obligé de dormir avec l'autre. Ça montre la difficulté aussi d'autonomisation, c'est-à-dire que
je
peux pas dormir seul, donc il y a quelque chose de très infantile d'une certaine manière. Et puis, comme vous le disiez, pourquoi ça n'est pas avec un partenaire, tout simplement, comme si finalement, à force d'avoir consommé de la sexualité de type pornographique, la sexualité est réduite à de la mécanique sexuelle, dépossédée pendant très longtemps de la relation affective, mais aussi sentimentale. Donc il y a les relations sentimentales, amoureuses, les relations sexuelles et les relations de chaleureuses, de tendresse, qui ne sont pas nécessairement les relations sentimentales. C'est-à-dire que c'est on coupe tout en rondelles.
Mais qui fait ça? Ce sont les jeunes qui ont la vingtaine aujourd'hui? Enfin, c'est qui a inventé ces plans dodo? Parce que moi, j'en ai jamais entendu parler avant. Mais
ce sont effectivement, c'est alors souvent pour éviter aussi de rentrer dans la sexualité. C'est retarder la sexualité. C'est de la toute jeune génération qui, à la fois, sont très consommateurs très tôt, voire trop tôt. Et quand je dis trop, c'est pas en termes de morale, c'est en termes d'aptitude émotionnelle à faire justement de la sexualité dans une confiance et connaissance de soi tranquille et dans une envie de créer du lien avec l'autre, même si c'est pas pour faire une relation sur du long terme, mais créer du lien. Eh bien, donc ils sont capables de pouvoir se mettre en scène sexuellement au-delà de leur réel désir. Et puis après, évidemment, comme ils ne sont pas encore des grands, quand je dis qu'il n'y a aucune malveillance là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore cette ambition d'adulte, eh bien, il y a un besoin de câlin, de douceur et d'être protégé par quelqu'un qui ne me touchera pas tout en étant dans le partage d'une intimité qu'est le sommeil.
C'est mignon, mais c'est effectivement un peu triste. Jimmy ?
Oui, c'est très bizarre. Mais du coup, on passe une soirée normale? Est-ce qu'on dîne ensemble? Est-ce qu'on regarde, je sais pas, Netflix ensemble? Et puis on va se coucher
la règle du plan dodo,
ensemble,
c'est quoi?
Est-ce qu'on se met en pyjama? On se partage la brosse à dents? Alors, où est-ce que se trouve la limite, en fait, aussi?
C'est ça, je dois vous avouer, je ne suis surtout pas de cette génération-là, donc je ne l'ai pas pratiqué. Oui, c'est ça, c'est se rencontrer pour dormir.
C'est
simplement
un vieux couple qui n'a pas de relation sexuelle, quoi, en gros.
Voilà.
C'est ça, quoi, tout simplement. Mais...
C'est pas ça, ouais.
C'est ça, et encore, je pense que les vieux couples, ils se font des câlins, mais ils sont pleins de sentiments, ils partagent des sentiments, ils ont aussi des histoires érotisées passées peut-être, qui ont nourri leur relation. Alors là, il n'y a pas tout ça, et puis il y a aussi potentiellement des malentendus, parce que chacun ne le voit pas nécessairement au même niveau.
Il faut être au même niveau, parce que
c'est intime, hein, de dormir avec quelqu'un, ça, je trouve, quand même.
Est-ce que c'est pas aussi quand on a été un peu mis dans la friend zone, c'est-à-dire que l'un veut et puis l'autre ne veut pas, et donc on va se satisfaire
d'un petit
morceau de dodo en se disant peut-être que, ou est-ce que vous pensez qu'il y en a qui sont vraiment sincères et qui...
Je crois qu'il y en a qui sont vraiment sincères de part et d'autre.
C'est une tendance, il paraît,
mais comme il y a...
Être un gars, là, je suis très bien pour être tendance.
Voilà, c'est ça. Mais sinon, mais comme il y a ceux qui revendiquent la virginité et des relations, justement, où la virginité est une sorte de fer de lance. Donc, il y en a qui marchent très bien comme ça, effectivement. Tous les deux sont d'accord sur ce plan-là. Mais parfois, effectivement, naît le désir chez l'un, mais pas qu'il l'ait programmé, mais né le désir dans cette intimité partagée. Et alors évidemment, là, ça peut poser problème.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans son rendez-vous. Votre émission Santé Bien-être, c'est tous les jours de 15h à 16h. Tout de suite, on retrouve Mathieu Noël et son équipe est sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Petite question indiscrète comme ça, vous êtes divorcée ou pas?
Ah, pas du tout.
Eh bien, vous allez aller voir Divorce Club, le film de nos invités. Ça va vous donner très envie de divorcer parce qu'il y a des grosses fêtes derrière, je vous l'annonce. Mickaël Lionardo Ducret sont nos invités cet après-midi.
Bon, bah, très bien, c'est très tentant, hein, évidemment. Ah, oui, je suis très curieuse.
Écoutez-nous, vous allez voir.
Donc évidemment, je serai là. Merci beaucoup Mathieu. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.